Pour les centralités, on a mis une moyenne de 12 logements à l'hectare. Pour les pôles de proximité, 10 logements à l'hectare. Et pour les communes rurales, 8 logements à l'hectare. Donc 10 logements à l'hectare pour les pôles de proximité, terrain en moyenne de 1000 m2, c'est le calcul. Pour les communes rurales, on arrive à peu près à 1400 m2 de terrain par construction. Et on est entre 800 et 900 m2 pour les centralités. Ce qui fait donc une répartition de ces logements, c'est la superficie des 100 et quelques hectares. C'est ce qu'on appelle la superficie brute. À cette superficie brute, et ce qui a été soulevé par les partenaires lors de la réunion, c'est qu'ils pensaient qu'on consommait des espaces naturels ou agricoles ou forestiers. Et c'est, ça les a interrogés. Et donc, ils ont demandé, et c'est bien inscrit aussi, de ce qu'on appelle l'étude de densification. C'est-à-dire que les terrains qui vont se situer dans la tache urbaine aujourd'hui ne seront pas décomptés de cette superficie d'ENAF, donc les espaces naturels, agricoles et forestiers. Et le souhait des partenaires, c'est d'avoir le minimum de consommation d'espaces naturels et agricoles. En gros, les extensions des hameaux le long des routes, ils n'en veulent plus. Par contre, des terrains qui sont situés au milieu d'un hameau ou au milieu du bourg ne seront pas considérés comme de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Ça rentre dans la superficie brute, mais ça ne rentre pas dans la consommation d'espaces naturels agricoles où les partenaires souhaitent être très vigilants dessus et réduire cette consommation.
Et on est bien d'accord qu'on ne fera pas changer ces critères. Que ce soit la région, c'est l'État, c'est une tendance sur laquelle il faudra qu'on compose. Par contre, c'est quand même souvent loin de la réalité. Je donne toujours comme exemple, ils ne sont pas là, la commune de Nayac, qui est quand même une commune où il y a les plus grosses exploitations agricoles, et il y a des maisons partout, sur les coteaux et partout, qui n'a pas empêché d'avoir des fermes qui sont les plus belles, toutes les fermes sont belles. Mais à Nayac, il y a quand même des exploitations qui sont quand même assez extraordinaires. Et pourtant, il y a des maisons partout et sur les coteaux.
Et donc, pour expliquer, parce que une interrogation qui a eu lieu aussi des partenaires, c'était comment on trouvait ces 500 hectares de consommation. Donc, eux se sont basés sur les études de CEREMA que vous pouvez, vous allez sur le site, vous tapez sur Internet, consommation foncière, et vous avez toutes les communes de France. Et eux se sont basés sur cette étude-là, mais ils ont compté quasiment que les maisons neuves et ils n'ont pas différencié, on va dire, ce qui est dans la tâche urbaine et en extérieur. Ils ont vraiment pris le pavillon qui s'est construit au milieu de nulle part. Donc forcément, il y a beaucoup moins de consommation réellement que ce que nous, on a pu constater. Je me suis basé sur tous les permis de construire, permis d'aménager et les déclarations préalables que vous avez eues sur vos communes entre 2011 et 2020 pour les maisons d'habitation neuves.
Sur les grandes idées de développement, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais leur raisonnement de protection de l'environnement, de la planification environnementale, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, elle peut se défendre. Mais ce qui n'est pas défendable, c'est que si nous on a vraiment 503 hectares, ils nous en disent 250. Ça, c'est mathématique, c'est la réalité.
Oui, attention à une chose, parce que nous, par exemple, on a fait nos additions, une grange qui se rénove sur un terrain qui fait 2 hectares et demi, on a compté qu'en gros 500 mètres carrés. Et si vous avez pris les 2 hectares et demi, moi je me suis renseigné auprès d'amis, de copains qui sont dans des DDT, mais pas dans des départements, la plupart des départements, ils ne prennent pas les 2 hectares et demi. Donc faites gaffe à ça.
Alors, c'est le décret du 22, le décret d'application de la loi ZAN. Par contre, une grange qui se réhabilite ne rentre pas dans la consommation foncière. Le bâtiment existe.
Sauf qu'il passe, il change de destination, donc, vas-y.
Eh bien, dans le décret, le bâtiment existe déjà. Ce n'est pas... Donc, alors, juste pour préciser, donc ce calcul, j'ai pris. Donc, pour les nouvelles maisons d'habitation, le décret indique comprend toute l'unité foncière puisque le jardin de la nouvelle construction est considéré comme de l'artificialisation. Pour les extensions ou les annexes des constructions existantes, je n'ai pris que la parcelle concernée, puisqu'on étend et on consomme encore de l'espace. Pour Les changements de destination, je ne les ai pas comptés, puisque pour moi, le bâtiment, il existe déjà. Pour tout ce qui est véranda à pentis de 15, 16 mètres carrés, je ne les ai pas comptés, puisque pour là, c'est contre la maison, donc on ne les a pas comptés. Pour les bâtiments économiques, là pareil, pour les bâtiments économiques neufs, on prend toute l'unité foncière. Alors, bâtiments économiques, entreprises, je parle. Pour les bâtiments qui sont réhabilités et donc il n'y a pas d'extension, il n'y a pas de consommation foncière. Un bâtiment qui était vacant, qui est repris aujourd'hui, c'est de la reprise des friches ou des logements vacants, ce n'est pas compté dedans. Pour les bâtiments, tout ce qui est les infrastructures touristiques, un nouveau site touristique, on prend toute l'unité foncière aussi. Pour les cabanes dans les arbres, on a fait une projection de l'emprise au sol, puisque bien souvent, les cabanes dans les arbres, c'est au milieu d'un massif boisé, donc la végétation, la biodiversité, elle existe encore. Au titre de l'urbanisme, c'est de l'emprise au sol, mais on a fait juste une projection pour vraiment réduire cette consommation. Pour tout ce qui est construction agricole, seule l'emprise des bâtiments agricoles et les chemins d'accès sont comptés dans la consommation foncière. Voilà comment nous, on a démontré la consommation et on a pris tout sur les permis. Et s'il y a eu une extension, parce que ces dernières années, il y a eu des fois des extensions de bâtiments agricoles, avec les plans, hein, on a tout calculé que l'extension du bâtiment agricole. Le chemin d'accès y était. S'il y avait un nouveau bâtiment à côté d'un bâtiment existant, le chemin d'accès y était, on ne compte pas doublement. Tout comme si une maison neuve a été construite en 2015. Le propriétaire met son garage en 2016 et sa piscine en 2017. Je n'ai compté qu'une seule fois la maison, la propriété, puisqu'on avait déjà tout compté une seule fois. Donc tout ça, ça a été un travail de fourmi et de recalculer tous les permis pour toutes les communes. Voilà comment on arrive aux 500 hectares et qui sera détaillé dans ce qu'on appelle le rapport de présentation, puisque les partenaires voulaient savoir comment on trouvait nos 500 hectares. Voilà comment nous, on a tout calculé sur la base des permis de construire qui ont été validés, sachant que depuis 2011, je comparais les permis avec la photo aérienne. Donc moi, j'ai les photos aériennes, vous savez, sur Google Earth et tout, ça date de 2021. Donc je regardais aussi si la construction avait eu lieu. Donc si la construction n'avait pas eu lieu, j'éliminais cette consommation aussi. On a compté les unités foncières, puisqu'on restait jusqu'en 2020. Photo aérienne est en 2020. Donc c'est 2018, 2019, 2020, les permis de construire de maisons neuves, on a pris toute l'unité foncière, puisque les gens ont 3 ans pour commencer leur construction. Donc on a une petite marge de manœuvre avec les données. Mais ça a été le travail d'analyse que nous on a fait, pour vous donner une consommation la plus précise possible. Alors, quand j'avais expliqué la conférence des maires, on a enlevé de la tâche urbaine, donc sur 20 mètres. Donc, on a des communes où c'est essentiellement des bâtiments, du moins des anciens hameaux agricoles qui se sont développés. On a estimé que c'était de la consommation foncière, vraiment au bourg que dense. Par exemple, à la Bachaterie, il y a eu des constructions qu'on n'a pas pris en compte. Sur le bourg de l'Imera non plus, puisque ça a été dans le bourg et pour nous, c'est consommé. Ça ne reste pas de la consommation d'espace naturel agricole, même si c'est une maison neuve qui est arrivée. Donc, par exemple, sur Batfol, autour de Raffaillac, où le hameau est dense, pareil, on a éliminé les constructions, on ne les a pas tenues compte, puisque ça rentre, Raffaillac est un hameau très dense. Voilà, ça a été vraiment étudié à la parcelle près.
Comment il explique?
Alors, il se base sur ce qui est déclaré en construction, donc les permis qui sont déclarés, c'est sur Citadel, parce que c'est le site Citadel qui repère les nouvelles maisons d'habitation, et tout ce qui est annexe, et on va dire, malheureusement pour l'environnement, heureusement pour vous, il y a eu des piscines, des garages qui se sont faits sur une seule parcelle, des fois sur 6000 m² de parcelle, il y a une piscine. Donc j'ai pris toute la parcelle. Voilà un des moyens aussi, mais c'est l'application du décret d'application. Moi, il y a des particuliers qui avaient une unité foncière composée de 3 parcelles, au-delà de 1 hectare, l'ensemble de l'unité parcellaire, et ils mettaient leur piscine sur 2500, voire 3000 m² sur une seule parcelle. Donc, on prenait la parcelle parce qu'elle était consommée et retirée de nos espaces naturels ou agricoles. Est-ce qu'il y a d'autres précisions que vous souhaitez avoir ou pas?
Avec l'arrivée du nouveau Premier ministre, il y a eu des annonces, et notamment sur la facilitation à construire. Je voulais savoir, alors, est-ce que vous avez eu le temps de décortiquer s'il y a quelque chose derrière ou s'il n'y a rien? Et est-ce qu'éventuellement, ça pourrait modifier les données que l'on a jusqu'à présent?
Non, je n'ai pas réussi, je n'ai pas décortiqué encore pour voir ce qui se cachait entre les lignes. Donc, pour continuer, donc le PADD, donc on voit là, on avait donc la superficie un peu que je vous disais. Donc, avec le scénario adapté, donc voilà, superficie selon la matrice territoriale, on a aussi tout calculé pour avoir réparti cette superficie. Pour, en gros, pour étayer la réflexion que j'ai proposée à M. le Président, j'ai fait sur une commune test. Par exemple, où j'ai repris toutes les maisons, hein, toutes là, et les terrains restants sur la commune test, que là, j'avais plus de 9 hectares de terrain qui sont dans la densification. Donc 9 hectares de terrain qui ne comptent pas sur la consommation d'espaces naturels, agricoles, forestiers. Voilà, j'ai fait une commune test pour savoir si la réflexion, on pouvait l'emmener jusqu'au bout. Donc là, voilà, j'ai plus de 9 hectares qui sont en densification et non pas en consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Permettre le changement de destination des bâtiments traditionnels, comme on l'avait mis en option en action, diversifier l'offre de logement dans un objectif de parcours résidentiel et répondre aux besoins d'hébergement des gens du voyage. Voici la première ambition. La deuxième ambition, la transition économique du territoire. Offrir de nouvelles disponibilités foncières pour l'accueil d'activités économiques. Promouvoir la requalification et l'optimisation des zones économiques existantes dans un objectif de développement durable. Favoriser la reprise des friches économiques. Autoriser une mixité fonctionnelle sur les bourgs. Mixité fonctionnelle, c'est toutes les fonctions que peut avoir un bourg. Commerce, services, habitat, équipement. Préserver le linéaire commercial sur les centralités. Permettre le développement des activités économiques isolées existantes. Donc, quand on avait commencé à travailler, envisager le devenir du site des papeteries de Conda. Malheureusement, c'est un site qui est en difficulté. Réfléchir à la transition écologique du pôle logistique existant sur le Lardin-Saint-Lazare et encadrer les activités d'extraction de matériaux, puisque nous avons un certain nombre de carrières sur le territoire. Accompagner les évolutions de l'agriculture, donc préserver le foncier agricole. Assurer le maintien et le développement des activités agricoles existantes, autoriser de nouvelles implantations agricoles en lien avec les orientations supraterritoriales, préserver la trame de Noyeray, ce que j'avais dit au moment de la conférence des maires, la production de noix sur certains territoires de Dordogne est montrée du doigt pour modification du paysage. Sauf que chez nous, il y a quand même une activité économique autour des noix. Et maintenir le développement du pastoralisme, puisqu'il y a 3 associations foncières pastorales qui sont sur le territoire, donc préserver aussi ces activités-là. Améliorer la structuration de l'offre touristique en faveur de l'attractivité du territoire, développer et diversifier une offre de logement touristique équilibrée sur le territoire, réfléchir au développement du maillage des voies vertes, chemins, de randonnées sur le territoire, promouvoir le développement d'hébergements touristiques en faveur des cyclotouristes en lien avec la Flovélo et la Vézère à vélo, aménager les espaces liés à la pratique du canoë et promouvoir le développement de nouvelles activités touristiques. L'ambition 3, la transition environnementale du territoire, c'est protéger les milieux naturels remarquables et la biodiversité, avec notamment les espaces boisés remarquables, les réservoirs de biodiversité, le maillage de haies sur le territoire, jouant un rôle écologique. Et le terme de maintenir le maillage, j'ai été dernièrement à une réunion, il ne précise plus de dire de protéger tout le maillage de haies, mais de le maintenir. Ça sert de corridor écologique, mais il y a eu une évolution des partenaires à ce niveau-là de maintenir et non plus de préserver. Le terme maintenir a été retenu. Définir des coupures d'urbanisation, facteur de maintien des continuités écologiques, et lutter contre la propagation des espèces invasives. Au niveau des paysages, la préservation des paysages caractéristiques du territoire, préserver les fenêtres visuelles depuis et sur les bouts remarquables, maintenir les milieux ouverts, locaux, c'est afin de lutter contre l'enfrichement, puisque vous voyez sur vos communes que les terrains les plus pentus, malheureusement, s'enfrichent. Limiter l'urbanisation sur les crêtes aux seuls bourgs déjà existants. Orientation 3, préserver le patrimoine bâti. Délimiter les périmètres des abords autour des bâtiments classés ou inscrits au titre des monuments historiques. Pour les communes qui ont un monument historique, vous avez 500 mètres autour de ce bâtiment, c'est un rayon. Il est possible de faire des... Et là, on travaille avec les architectes des bâtiments de France. Promouvoir l'identité architecturale périgourdine dans le cadre de la restauration de bâtis anciens ou de constructions neuves au sein du bourg ou de hameaux de caractère. Valoriser le petit patrimoine et les éléments végétaux. S'appuyer sur le label Grand Site de France de la Vallée Vézère pour pérenniser l'attractivité touristique. Voilà pour l'ambition 3.